Salut, c'est Sylvain de Manette à 3. En attendant la rentrée du podcast en septembre, je vous propose un best-of estival avec les meilleurs débats de cette seconde saison qui s'est achevée. D'ici notre retour, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser un commentaire. Bonne écoute! The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team.
Trust? Trust.
Après des années, je pense vraiment, de rumeurs, GTA 6, puisque c'est son nom, a enfin été annoncé officiellement, puisque le trailer a leak dans la nuit de la journée où il devait être dévoilé.
Et, Bitcoin.
Voilà, par un compte dédié au Bitcoin.
Par un cryptiste avisé.
Effectivement, Alvin, donc ça y est, donc il s'appellera Grand Theft Auto 6, pas de surnom, pas de... Bref, c'est GTA 6, quoi. En tout ce foin de la part de Rockstar qui a annoncé que ça serait le prochain épisode de GTA. Donc les gens se disaient, ah tiens, ça va s'appeler Vice City ou un truc comme ça.
GTA VI, comme Vice City.
Ouais, c'est vrai, effectivement. Bon, je vais donc vous demander votre avis sur le trailer, parce que le trailer, c'est un trailer de gameplay. C'est important de le préciser, en tout cas, un trailer avec le moteur du jeu, in-game. Excusez-moi, je sais, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de gameplay. Mon cher Alvin, qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce nouvel épisode qui mettra en scène deux personnages, un personnage féminin, un personnage masculin.
Le contrat est rempli, on est avec GTA. Moi, j'ai découvert GTA sur le tard. Moi, j'ai découvert vraiment avec GTA 5 et j'ai vraiment fini le premier GTA que j'ai fini, c'est GTA 5. Et j'ai adoré le scénario. Vraiment, j'aime pas l'open world GTA. Moi, je le fais en taxi. Je vais vraiment dans un taxi d'une mission à une autre. J'aime pas la conduite dedans. Par contre, j'aime le regard absolument désabusé et l'écriture vraiment acide sur les États-Unis.
La jeunesse californienne.
Aussi. Là, en l'occurrence, la jeunesse californienne.
De Floride, pardon.
Mais, enfin, de GTA V, c'est ça que j'avais découvert, un côté absolument satirique qui passe au lance-flamme toute la culture récente américaine. Et bah, c'est exactement ce que j'attends sur GTA VI. Évidemment, il va y avoir des bails à base de crypto. Évidemment, il va y avoir des bails à base de Trumpistes, de Canon, d'extrême droite, de clash entre les générations, de clash entre les civilisations. Et on a l'air dedans. Moi, c'est vraiment, c'est ça que j'attends. Pas du tout un open world. Un scénario de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire des années 2020, comme GTA V disait plein de choses sur les années 2010, le début des réseaux sociaux, les spams par SMS.
Avec un duo de personnages, la Bonnie and Clyde, hein, puisque ce sont deux amants, a priori, qui veulent se venger de quelque chose, parce qu'on ne sait finalement pas grand-chose du scénario. Hein.
À part qu'on on a vu la ville et on a vu que, genre, c'est des lumières à la GTA, c'est une ville à la GTA. Le contrat est rempli, on n'a plus qu'à attendre 2025.
Et oui, parce qu'effectivement, je vais être annoncé pour 2025. C'est un peu la douche froide du côté des fans qui espéraient peut-être une sortie à la fin de l'année prochaine. Antistar, toi, t'en as pensé quoi de ce trailer ?
Alors déjà, les fans, on est en décembre 2023, ils sont deg que ça dise 2025. On aurait été un mois plus tard, ils auraient dit cool, c'est l'année prochaine.
Oui,
faut doser un peu
ça.
Quand même. Hein.
Même pas un mois, hein, quelques jours.
Oui, mais il fallait faire 10 vidéos sur YouTube en urgence.
C'est vrai, effectivement. Bon, t'as quand même apprécié ce que t'as vu ou pas du tout ?
Moi, oui. Bah, après, moi, alors, les gens le savent pas, mais moi, je suis un très gros fan de GTA. Vraiment, je considère GTA 4 comme un des plus grands jeux vidéo auxquels j'ai jamais joué de ma vie. Vraiment, je l'aime beaucoup plus que GTA 5 d'ailleurs. Okay. GTA San Andreas, pour moi, c'est Skyrim avant Skyrim. C'est la révolution de l'open world à l'époque, on n'en parlait pas encore. Et c'est voilà. Donc GTA 6 fait partie des jeux que j'attendais le plus. Et aujourd'hui, c'est le jeu vidéo que j'attends le plus de ceux qui ont été annoncés. Le trailer, c'est exactement ce que j'espérais, c'est revoir en fait le trailer de GTA 5 à l'époque, mais à la sauce Vice City. Mais c'est étonnant à quel point pratiquement personne n'a fait un comparo entre ces deux trailers, alors qu'ils sont très ressemblants. Ils commencent sur la même chose, hein. C'est tu as, bon là c'est pas une voix off parce que tu vois le personnage, mais c'est littéralement qu'est-ce que tu fais ici, comment tu vas t'en sortir. Et ben écoute, je te tape 2-3 lignes de dialogue, après on te montre un peu à quoi va ressembler l'environnement. C'est blindé évidemment de références à GTA Vice City d'origine, et ça tient 1 minute 30, c'est tout ce qu'il faut pour faire monter l'hype et te dire bah voilà, Le remake de GTA Vice City qui ne donne pas son nom, évidemment, le reboot de GTA Vice City est là, et ça va être top. Effectivement, Alvin, tu as raison de parler de Bitcoin. On voit aussi tout ce qui est un peu TikTok, Stories, Insta, qui est très très mis en avant. Je pense que la partie réseaux sociaux va être extrêmement exploitée. Malheureusement, GTA V arrivait un tout petit poil trop tôt. tôt dans l'histoire.
C'est un peu OK Boomer. Dans le
problème, c'est que GTA V, il arrive fin 2013, à une époque où les réseaux sociaux n'ont pas encore complètement explosé. Là, pour le coup, effectivement, il faut être à fond dans le délire TikTok, Reels, Insta et compagnie. Mais moi, je me pose une vraie question. Je pense que c'est la théorie du complot la plus éclatée possible. Mais je me dis toujours, est-ce que ce leak de trailer avec un gros by BTC, est-ce que c'est pas Rockstar qui l'aurait orchestré?
Franchement, vu la réaction des devs qu'on a vu sur les réseaux sociaux, ça n'a pas l'air. Parce que les devs, justement, disaient, oui, nous, on vous laisse donner rendez-vous à 15h, parce que c'était prévu pour 15h.
Mais ça peut être un coup marketing sans avoir parlé des devs.
Franchement,
imagine.
Après, le truc, c'est que...
C'était une rumeur qu'il y aurait une histoire de crypto-monnaie dans le jeu, mais bon, il y a tellement de rumeurs sur GTA.
Ouais, mais tu vois, de là à laisser un compte... En plus, je rappelle qu'ils l'ont mis que sur YouTube, parce que, pour la petite anecdote, X, anciennement Twitter, a un peu déréférencé, mal référencé plutôt le tweet de l'annonce du trailer, puisque Elon Musk n'était pas content, il l'a dit publiquement, que le trailer ne soit pas uploadé directement sur X. Et donc il a fait en sorte en fait que le lien YouTube soit peu visible sur la plateforme. Bon, ça n'a pas empêché le tweet en question de faire je ne sais combien de millions de vues, mais n'empêche qu'il y a eu moins de référencement. Après, le trailer, lui, a très bien fonctionné. Je n'ai pas regardé les chiffres dernièrement, mais c'est effectivement... ça en valait l'attente, visiblement, vu le nombre de gens qui ont vu le trailer.
Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'analyser la réaction de Rockstar, parce qu'il y avait trois possibilités. Soit ils font l'autruche, ils attendent 15 heures, parce que finalement, il n'y avait que 15 heures
comme
à attendre.
Xbox ou Nintendo.
Comme
ou Ubisoft.
Xbox ou Nintendo, voilà. Ils font rien, ils font genre non, il ne s'est rien passé. Soit ils sont très cons, ils créent un effet Streisand, mais je pense que Rockstar, ils savent ce que c'est qu'un effet Streisand, et ils sont pas stupides, ils vont pas dire attention, notre trailer a leaké, surtout ne le regardez pas. Ça, c'est le pire moyen de perdre 10 millions de vues sur leur vrai trailer. Et en vérité, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent c'est pas cool, parce que du coup, ça donne du crédit au leak en parlant, parce qu'ils mentionnent le fait que ça a leaké. Hein. Ils auraient pu mettre en mode allez, surprise, tiens, on vous balance le trailer maintenant. Sauf que le moment où ils le balancent,
c'était 10 minutes après le leak.
C'était 10-15 minutes. Ils ont été très réactifs.
Ils ont été ultra réactifs. Mais en vrai, moi, je pense que c'est ce qu'il fallait faire, parce qu'on sait à quel point, effectivement, un leak comme ça, ça peut être très vite viral. Ça peut. Je vais pas dire que ça peut leur coûter cher, parce qu'en vrai, ça va pas vraiment avoir d'incidence. Mais le fait qu'ils réagissent aussi vite et que du coup, ils killent le leak très très vite. Ça évite quand même au leak de leur donner une mauvaise image. Parce que beaucoup de gens vont voir le leak en 140p dégueulasse avec le gros
logo
dessus. Et il y a beaucoup de gens quand même un peu fermés d'esprit qui vont se dire « Ah putain, il est quand même moche, je vais pas acheter le jeu. » Parce qu'ils vont voir un trailer dégueulasse. Ouais. Faut pas oublier, c'est un jeu GTA V qui a été acheté par quasiment 200 millions de personnes, dont beaucoup de gens qui ont une vision quand même assez étriquée des choses. Et qui, s'ils voient uniquement ce fake trailer, ils vont se dire « Ah, c'est moche, j'achète pas et je vais faire de la sale pub à GTA V sur Steam. »
Ken, tu n'es pas sans savoir que GTA 6 a été annoncé sur Xbox Series et PS5, mais pourrait-il sortir sur la prochaine console de Nintendo? Vous en avez parlé dans Nintendo mercredi dernier. Est-ce que vraiment c'est une théorie plausible selon toi, sachant que on rappelle que l'une des plus grosses surprises dans la saga GTA, ça a été quand même l'annonce de l'épisode DS1.
Oui, c'est vrai. Alors moi, je suis comme Alvin, c'est-à-dire que j'ai vraiment découvert le GTA moderne avec GTA 5, et c'est pareil, c'est un jeu dans lequel je prends le taxi, parce que j'aime les jeux de voiture, et franchement, GTA, c'est pas la meilleure conduite de l'histoire de l'univers,
Ça
reste mieux que Cyberpunk. Cela dit, moi, j'avais fait GTA 1 à l'époque, que j'avais trouvé révolutionnaire pour son époque, bien que d'une franche violence, mais qui me rappelait un peu au Die Hard Arcade et au film des années 80 que j'aimais bien. J'ai bien aimé la satire de la société américaine qui a été faite dans GTA V, mais quel constat 10 ans plus tard? En fait, le constat, c'est que Rockstar a certes fait une énorme satire de la société américaine, mais qu'est devenu 10 ans plus tard la société américaine?
C'est GTA V.
Quasiment tous les clichés qui ont été satirés. Et en fait, je me rends compte que GTA, Rockstar essaye d'apporter une critique de la société, mais en vrai, tous ceux qui jouent à GTA ne voient que pas la critique, mais que la société comme elle est.
Et c'est pas qu'ils sont visés en y jouant, en fait.
Non, pas du tout. En fait, ils voient pas l'ironie. Et en fait, GTA, je trouve que ça limite l'effet inverse. C'est que ça confirme à la fois l'idée et ça transforme tout. Et là, je me dis, quelle satire avoir de la société moderne américaine.
Elle finit par rattraper.
Quand la société américaine, c'est ni plus ni moins que la satire, voire même pire, que la réalité a dépassé la fiction. Qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez faire réellement là-dedans? Je me demande quelle réponse ils vont apporter par rapport à ça, parce que moi ce que j'ai vu dans ce trailer, c'est du GTA. Et sincèrement, depuis le 4. enfin, on commence à connaître un peu la recette.
La formule, ouais.
Ajouter à ça que j'ai pas trouvé non plus, mis à part les immenses panoramas sublimes, le jeu spécialement bluffant graphiquement parlant. Après, c'est normal, ça reste un jeu console, hein, donc je pense pas non plus qu'ils peuvent tricher avec des trailers.
Et puis surtout, tu peux moins impressionner les gens que dans Red Dead Redemption 2, où là il y avait le côté.
Ouais, j'avoue. En fait, c'est ça, Red Dead est passé. Red Dead, il est magnifique.
Tu sais pourquoi
c'est abusé.
Le trailer ne t'impressionne pas? Non. Parce que les trailers de Rockstar, la plupart du temps, sont honnêtes.
Ouais, ouais.
Ils ne downgrade pas leur jeu par rapport à leur trailer.
Ouais, bah honnêtement, leur jeu, il me donne pas envie.
Ouais.
Voilà, vraiment. Ils me donnent vraiment pas envie. Déjà, Vice City, pff, rien à foutre. Tu vois, c'est. Voilà, ça va être les courses de voiture, du mauvais gunfight, et j'espère qu'il y aura un bon scénar. Mais le côté Bonnie and Clyde, bon, excusez-moi.
C'est pas forcément très original. Cela étant, le charisme des personnages présentés, en tout cas.
Bah, ils sont négatifs.
Ah, si, moi je trouve que justement.
C'est juste de random.
L'héroïne, elle a du charisme dans
le random, l'héroïne, parce qu'il faut un personnage random aujourd'hui, parce qu'il faut pas un personnage marqué, faut pas un personnage sexualisé, faut pas un personnage machin,
cela
pas
étant,
personnage truc.
Cela étant,
donc ils ont mis Sylvain Trinel et je sais pas qui d'autre dans le jeu, et puis c'est parti quoi.
Non, parce que tu vois, le risque avec ce personnage féminin, et c'est un peu ce que j'ai vu dans le trailer, donc j'espère me tromper, c'est que.
Mais moi j'adore.
Ce personnage a l'air d'être assez cliché dans la mesure où ça a l'air d'être une latina.
Oui, oui.
Avec donc visiblement le passif. De ce que l'on a aux États-Unis, en tout cas en Floride et dans l'État du Nouveau-Mexique.
Mais
et compagnie.
Mais j'étais un ramassis de clichés.
Oui,
là-dessus que ça marche.
Mais à côté, le truc, c'est qu'en termes de scénar, j'ai peur que elle soit en probation, qu'elle finit par rencontrer donc son Clyde et que ce soit pas d'une originalité folle. Là où GTA V avait quand même un peu été original, notamment sur le traitement de certains de ses personnages principaux. Donc, j'espère.
Ils ont pris vraiment trois profils très différents, tu vois. Donc, c'est vrai que c'était cool. Mais GTA 4 aussi avait des profils.
Moi, je fais confiance en Rockstar là-dessus, hein, quand même.
Ouais, en vrai, je m'inquiète pas spécialement, même si, bon, j'avoue que Red Dead 2, c'était pas non plus oufissime d'un point de vue perso, mais.
C'était au niveau de les possibilités d'exploration et le monde vivant que Red Dead était vraiment impressionnant. Faut aussi
ça, c'est vrai. Et je pense que là, ça sera encore très réussi. Ce qui est certain, c'est qu'ils savent faire un jeu fun. Ça, au moins, c'est cool. Parce qu'on attend le jeu fun de Rockstar depuis pas mal de temps, là. Ça commence à dater.
Ah, c'est vrai que c'est pas avec Red Dead 2 que tu l'avais. Hein.
C'est vrai que.
Mais après, ton jeu fun de Rockstar, tu l'as depuis 10 ans, c'est GTA Online. Le problème, c'est qu'il faut avoir envie de jouer online.
Ouais, sauf que le GTA Online fait la satire de rien du tout. Hein. C'est carrément, ils entrent dans les modèles actuels. Est-ce que GTA n'a pas plus fait la promotion du Trumpisme que sa critique et des microtransactions? Je vous pose vraiment la question, et c'est ça qui me pose un peu de problème. Après, j'ai aucun doute que le jeu sera sûrement très très bon, mais j'ai l'impression que ça va être juste un GTA avec une grande map. Et finalement, est-ce qu'on veut beaucoup de choses en plus agrémentées du online? Mais j'attends pas de ce jeu qui révolutionne quoi que ce soit, et je pense qu'il révolutionnera pas quoi que ce soit. Et c'est dommage, 10 ans après la sortie d'un GTA. Et pour en revenir à ta question de Switch ou pas Switch, le jeu, c'est un jeu série S, hein. Je vous le rappelle, hein, quand même.
C'est vrai.
Ok. Donc vous attendez. C'est pour ça que tout le monde dit c'est la folie et tout le monde à poil. C'est un jeu Xbox Series S, votre jeu. D'accord. Ouais. Il a beau sortir en 2025.
Il sera pas sur PS4 One quand même. Ce qui est. Parce que
la série S, c'est pas une PS4 One, excuse-moi. Série S, c'est 4 teraflops, 4-5. Hein,
oui, la PS4 et la One, c'est 180 millions de consoles.
Oui, mais à côté.
Oui, mais c'est un disque dur et voilà, et un teraflop. Non, faut quand même pas exagérer non plus.
Il y a l'air d'avoir du ray tracing en plus dans GTA 6. On s'en fout au trailer.
On s'en fout en 1080p, tu le retires, à mon avis tu pourras jouer à ce jeu vraiment sur quasiment n'importe quoi. Si ça tourne sur Series S, ça tournera sur n'importe quoi. Et c'est pour ça que l'idée de se dire, est-ce que 4 teraflops atteignables avec 30 watts de puissance, c'est envisageable sur une future console portable Nintendo? Bah, le fait est que tu en es la preuve vivante, c'est déjà envisageable sur Steam Deck, c'est déjà envisageable sur Ogali. En fait, ça existe. En fait, c'est déjà là. Et un Rogue Ally, aujourd'hui, pour les vacances de Noël, ils ont tellement de mal à le vendre qu'ils se vendent 499€. Donc, qui sait en 2025 si eh bien, ce ne serait pas possible de porter des jeux comme ça. Je pense qu'à partir du moment où tu vises le 1080p sur une machine et que tu as 3, 5, 4 teraflops de puissance, plus une lecture rapide, hein, d'un point de vue du SSD, tu peux faire tourner tous les jeux vidéo que tu veux aujourd'hui. En fait, il n'y a plus vraiment de limitation. Juste, bon, bah, ce sera un peu moins beau que sur ton PC 4080 de la mort.
Voilà,
exactement. Donc moi, ça va être juste, est-ce que Rockstar, on a la volonté directe pour aller chercher le maximum de grand public? Parce que GTA, c'est un jeu qui doit se vendre au plus de monde possible. Pour ça, je comprends pas pourquoi le jeu n'est pas annoncé sur PC direct. Mais je crois que la stratégie marketing, c'est de le vendre 80 balles à tout le monde et ensuite de le revendre 80 balles
c'est
un peu après modes, voilà, au
pigeon. Pourquoi se contenter d'une seule sortie quand on peut en faire deux événements hein, c'est aussi
et puis on court-circuite le piratage aussi pas mal en faisant ça.
Et puis tu fais une version qui est bien rodée, bien propre, dont tu as corrigé beaucoup de bugs. Hein.
Peut-être que justement avec la version PC qui est celle la plus jouée de GTA V aujourd'hui parce qu'il y a toute la partie RP de GTA Online, peut-être que justement c'est pour proposer des outils sur GTA Online un peu plus intéressants, parce qu'on rappelle qu'ils ont racheté une équipe qui faisait des mods sur GTA Online.
C'est vrai.
Voilà, au début de l'été. Donc effectivement, il doit y avoir cette intégration-là, on verra ce que ça donne, et peut-être même que GTA Online ne sera pas dispo au lancement de GTA 6.
C'est fort possible.
C'est fort possible, parce que Red Dead, c'était le cas.
En tout cas, le jeu a tout intérêt à sortir sur le maximum de machines possibles, je pense, et si la future console Nintendo en a les capacités, là, et si Nvidia fait le travail qu'ils sont censés avoir fait sur leur prochaine machine, DLSS plus quand même une certaine puissance sur un processeur ARM, Schwarzberg, qui a quand même des meilleures optimisations, performance, puissance que sur d'autres types d'architecture, il y a moyen que ça arrive. Je ne dis pas que ça pourrait arriver, je ne dis pas que c'est une volonté, je dis que en fait, ce n'est pas absurde de l'envisager, ce n'est pas une utopie de l'envisager, parce que bon sang, quel bond gigantesque il y a eu sur les processeurs mobiles dans ces quelques années. C'est moins cher, ça consomme moins et c'est extrêmement puissant. Donc moi je ne trouverais pas ça absurde de devoir arriver ce jeu sur la future console Nintendo, surtout si ça tourne sur une série S. Putain, excusez-moi, série S quoi. Pardon.
Presque un grip.
Mais ouais.
Je vais m'autoriser une petite tech sur le sujet. Bon, évidemment, on ne sait pas du tout si le jeu sortira sur la prochaine console Nintendo.
Non.
La prochaine console Nintendo, on rappelle qu'avec GTA 6, c'était notre serpent de mer sur ces deux dernières années.
On en sait moins sur la prochaine console Nintendo que sur GTA 6.
Exactement.
Bah oui, maintenant.
Cependant, bon, ce que je vais dire, si ça se trouve, dans 3 mois, ça va s'autodétruire parce que j'ai vraiment dit une grosse connerie. Mais comme Nintendo ne communique absolument pas, ne serait-ce que sur l'existence du développement d'une nouvelle machine, on se doute bien que le nom de la machine en question, il est verrouillé. De ouf, et le moindre éditeur qui est dans le secret
n'a pas le droit de faire apparaître les logos.
Apparaître le logo. Moi, je reste persuadé qu'on a vu beaucoup de jeux ces derniers mois en termes de trailers qui sortiront peut-être sur cette console, mais dont le logo n'apparaît pas. Ils n'ont pas le droit de faire ne serait-ce qu'un micro-teasing qui aura un support additionnel, et que ça a peut-être même été le cas de beaucoup de jeux qu'on a vus lors des Game Awards. Moi, je pense que.
Surtout les jeux où il y a marqué 2025.
Oui.
Tous les jeux où il y a marqué 2025, je pense qu'il y en a plein. Ils sont censés avoir un logo Switch 2 qui est caché. Évidemment, ne peut pas apparaître, mais peut-être qu'il y aura des mises à jour de ces trailers ultérieurement.
Bah oui, de toute façon,
on est là.
Le pire reste Professeur Layton. Professeur Layton qui est annoncé avec des features tactiles incroyables et qui est annoncé sur aucune machine. Aucune machine.
Ça, c'est pas mal.
Parce qu'il n'y a pas le fameux logo Switch au début du trailer, le fameux logo rouge.
Puis Monster Hunter Wild, et je te dis, des jeux annoncés au Game Awards qui seront sur la Switch 2 qui n'ont pas de logo Switch.
Donc j'imaginais vraiment que Wilds ne sorte pas sur la prochaine console Nintendo, mais jamais de la vie.
Quelle année 2023 on vient de connaître, mes chers amis, parce que là, entre les reports, les sorties inattendues pour certaines,
la crise
également, la fin de la bulle, je pense Covid,
c'est ça.
On peut vraiment dire ça.
Enfin,
y a eu beaucoup de choses cette année et du coup, on va faire un petit bilan avant de passer justement un peu à aux manettes à trois d'or. J'adore rappeler ça. Vraiment, je pense que je vais l'appeler comme ça dans le titre final du podcast.
Le monde attendait un nouveau podcast qui donne ses awards. Vraiment, les développeurs n'attendaient que ça. Heureusement que nous avons répondu à leur attente.
Exactement. Mais comme je le disais, on va déjà faire notre bilan de toute l'année 2023. Il y a eu pas mal de choses, mais déjà, un point sur lequel je voulais revenir, parce que je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, c'est les nombreux licenciements qu'il y a eu cette année dans le secteur du jeu vidéo, mais aussi des nouvelles technologies, et d'une manière générale dans le monde. Mais quand même, le jeu vidéo a été particulièrement touché. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette hémorragie, cette fuite des cerveaux, je pense qu'on peut vraiment dire ça. Alvin, tu peux nous en dire un peu plus parce que clairement, c'est la faute du Covid, en fait.
C'est la faute du Covid qui a perturbé les productions. On en a beaucoup parlé et vraiment, c'est quelque chose qu'on ne l'a jamais aussi bien perçu, la pression économique extérieure sur le monde du jeu vidéo. Les jeux qui ont été beaucoup repoussés, 2020 et 2021 ont été des années où sortaient des jeux qui étaient en production avant le Covid. Et après, arrivé en 2022, on avait eu une année vraiment assez calme et assez nulle. Et post-Covid, comme le jeu vidéo a très bien performé dans le Covid, tout le monde s'est dit « Ah, on a gagné des années de croissance avec le Covid et on va rester sur la même trajectoire. » Et personne n'avait vraiment anticipé ou personne ne voulait imaginer qu'on puisse baisser après le Covid, ce qui a été le cas. Les gens ont beaucoup joué pendant le Covid, ont un petit peu moins joué après, on avait moins de sorties à leur mettre. Tout le monde avait lancé beaucoup de projets, beaucoup de productions. L'argent était gratuit, il fallait relancer l'économie en général, c'était très facile d'emprunter, donc de lancer des projets risqués. Faire un jeu vidéo, c'est un projet risqué en dépit des apparences, même avec une grosse franchise. Donc tout le monde s'était dit, allez, on y va à fond parce qu'il y a des gisements de croissance incroyables. Et puis tout le monde a eu la gueule de bois arrivé fin 2022, début 2023, en voyant que merde, produire des jeux maintenant, l'argent à emprunter est plus cher, les banques ont plus de mal à financer des projets risqués. Qui prendrait le risque de lancer une franchise, d'aller débaucher des gens ailleurs très cher pour lancer des projets surnuméraires? On a très bien vu que le château de cartes s'est effondré très vite.
Le premier château de cartes qui s'est effondré très vite, c'est Embracer Group.
Embracer Group.
Ceux qui ont THQ Nordic, etc. Enfin,
qui venaient de racheter Crystal Dynamics et la franchise Tomb Raider, et qui, dès le début, ont commencé à faire des simplifications. Et qui, en perdant un deal, le fameux deal à 2 milliards non annoncé de projets qui devait être financé, qui est tombé à l'eau au dernier moment.
Avec l'Arabie Saoudite, d'ailleurs.
A priori, l'Arabie Saoudite, ça n'a jamais été confirmé, mais c'était ce qu'on avait compris. Beaucoup de projets ont dû être annulés et clairement un problème de surcapacité. Et ça, c'est le cas dans le jeu vidéo, mais c'est le cas dans toute industrie. Quand vous êtes en surcapacité, vous produisez des choses que vous n'arrivez pas à vendre. La chose la plus importante à faire, c'est d'arrêter de le faire. Donc on taille dans les effectifs, on annule certains projets qui de toute façon ne méritent pas d'être amenés jusqu'au bout, et on passe d'un moment d'euphorie. Clairement, 2022 avait été une très belle année, tant en termes de vente qu'en termes de production, qu'en termes de bourse, à maintenant des éditeurs qui sont tous très emmerdés, parce que produire un jeu quand ton crédit est à 5% d'intérêt, c'est pas du tout la même chose que quand il est à zéro. Voilà, au pire de ton crédit gratuit, tu fais ton projet, il fail, c'est pas grave. Là, tu peux plus te permettre, parce que même au cours du développement, tu peux être interrompu faute de financement. Donc ça, c'est un vrai changement qui a eu lieu. À mon avis, ce qui est quand même rassurant, de l'espoir pour 2024, c'est qu'on est toujours dans les excès. Excès de production, excès de rigueur, on va se normaliser au cours de l'année. En tout cas, c'est mon souhait, pour ceux qui travaillent et pour nous, qu'on revienne un petit peu plus à la réalité, un peu plus sélectif sur les projets qu'on lance, mais un petit peu plus d'audace aussi, parce que voilà, il s'agit de... C'est la deuxième partie du cycle de la PS5 et de la Series. Voilà, il y a quand même un cycle à tenir. Il faut lancer des productions et je pense qu'on va les lancer.
Antistar, je me tourne vers toi pour la partie un peu streaming, etc. Toi, voilà, t'as lancé ta nouvelle vie il y a déjà quelques mois. T'es streamer quasiment à plein temps, mais aussi journaliste pour des sites. Mais voilà, disons que tu passes quand même beaucoup de temps sur Twitch, sur ta chaîne Antistar. Et est-ce que toi, tu as quand même vu les choses un peu changer du côté du streaming? Parce que certes, toi, tu bénéficies d'une évolution positive, peut-être un peu moins forte que certains streamers à une certaine époque, qui eux sont montés très rapidement. Mais on a vu, par exemple, récemment que Twitch quittait la Corée du Sud parce que clairement, ça n'était pas rentable. Est-ce que c'est un signe, selon toi, annonciateur de mauvaises nouvelles pour l'Occident, pour Twitch?
En fait, là où c'est potentiellement mauvais signe, c'est les gens qui misent tout sur Twitch. Moi, dès que je me suis barré de JV avec l'intention de me lancer à mon compte, plein de gens m'ont dit « mais t'es sûr que tu vas réussir sur Twitch ?» Et j'aurais toujours dit « je ne vais jamais chercher à ne vivre que de Twitch. » Parce que, et je le redis, je profite du fait d'avoir des gens qui nous écoutent, ne cherchez pas à vivre de Twitch. À moins d'être le nouveau Ponce ou le nouveau MrMV, vous n'arriverez pas à vivre de Twitch. Même en faisant 200 viewers constants, en ayant 250 abonnements, ce qui vous paraît génial, parce que vous voyez 250 abonnements, vous vous dites « ouais, mais c'est trop bien, ça fait déjà 1000 balles. » Non, 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 ça fait rien du tout. C'est très, très, très compliqué.
On oublie l'URSSAF.
On oublie l'URSSAF, on oublie le fait que Twitch ponctionne quand même plus de la moitié avec la conversion dollar-euro. Hein, quand un sub à 4 balles, vous touchez même pas 1,50€ à la fin dessus. Donc bon, c'est vite compliqué. La situation en tant que streamer, elle est absolument pas catastrophique ou inquiétante, en tout cas pas tout de suite, mais c'est quelque chose sur lequel moi j'incite les gens à la plus grande prudence. Moi-même, je m'incite à une très grande prudence parce que, comme tu dis, je m'en sors pas trop mal, ça monte tranquillement. Ces nouvelles en provenance de la Corée, effectivement, moi, je me sens pas potentiellement impacté dans le sens où, bon, je sais que je vais toujours faire les mêmes audiences. Par contre, est-ce que le business model de Twitch, lui, va pas effectivement en pâtir? Est-ce qu'on va pas se retrouver avec une nouvelle répartition
entre la pub et voilà.
Ça, c'est pas dit.
C'est un des vrais sujets tech et télécommunications, la fameuse histoire de est-ce que, enfin, la neutralité jusque-là était que les opérateurs financent les tuyaux, point. Et maintenant que le streaming vidéo, hein, quand on parle de streaming, on parle vraiment de Disney+, de Netflix, consomme énormément de bandes passantes dans les tuyaux, tant et si bien que les opérateurs voudraient maintenant qu'ils le contribuent. C'est ce qui s'est passé encore, et pour Twitch, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont retourné le système où maintenant l'utilisateur du tuyau est considéré comme le fournisseur de services. Et donc là, effectivement, il n'y avait plus de modèle pour Twitch. Si Twitch doit payer les frais d'Internet pour la diffusion de ses streamers, ça ne passe plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose... C'est un serpent de mer dont on parle régulièrement en Europe. Ça pourrait tout changer si jamais c'était vraiment commencé à être mis en place pour que les plus gros services de tech du monde qui utilisent beaucoup les réseaux Internet doivent les financer. Il restera plus que 10 ou 20% pour les Twitchers. Hein,
en fait, jusqu'à quand Amazon va accepter de financer à perte, hein, parce qu'ils ne gagnent pas d'argent sur Twitch, on le rappelle, cette activité-là. Ils ont effectivement déjà découpé dans les effectifs. Ils ont arrêté certaines chaînes historiques de podcasting en fait, sur Twitch, qui étaient des chaînes officielles, des émissions aussi, etc. Il y a eu quelques départs.
Un petit peu moins d'événements. Enfin, on sent quand même qu'on est passé sur une deuxième phase sur Twitch où maintenant là, il s'agit d'être rigoureux et de rendre la plateforme rentable, ce qui n'était pas du tout le cas avant.
Il y a eu une explosion avec le Covid aussi de Twitch. Hein. On se rappelle tous à quel point, quand on était cloîtrés chez nous, le mieux qu'on avait à faire, c'était soit de nous y mettre nous-mêmes, soit de passer nos journées à regarder des streams meurt en fond. On est loin déjà maintenant du moment où les gens ont retrouvé une vie à peu près normale, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui c'est pas nécessaire en fait d'être sur Twitch. T'as pas besoin d'être sur Twitch pour exister.
Y a plein de solutions de live qui ont émergé, les TikTok live, les Instagram, on voit
aujourd'hui c'est vrai que c'est le TikTok live
qui a plus d'intérêt que Twitch, hein.
l'audience globale de Twitch, l'audience France de Twitch est en légère baisse. Alors il y a pas feu dans la demeure.
Écoute, c'est vrai que c'est ce que disait Ultia en faisant un peu le bilan de ses propres audiences, alors sachant qu'il n'y avait pas eu de Z-Event etc. cette année, donc il y avait moins ces pics d'audience, mais il expliquait que a priori, oui, le nombre de visites, de visionnage de Twitch de spectateurs a quand même sensiblement stagné, dans le monde. Et du coup, c'est quand même problématique parce qu'on était là, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on est constamment en train de se dire « Ah là là, il y a eu une audience de fou genre sur les Z-Event ou le GP Explorer,
mais c'est une fois. » C'est très ponctuel.
C'est ça.
Parce que quand tu vois qu'une des plus grosses chaînes en pleine journée US, hein, vraiment monde, elle peut être à 50K, bon, certes, c'est une audience médiamétrie proche de la marge d'erreur, mais n'empêche que c'est pas dingue. Enfin voilà, ça représente
finalement
assez peu de monde.
C'est pas rien, mais c'est pas énorme effectivement.
Ça montre que Twitch reste une niche.
Oui, non, bien sûr.
Complètement. Mais c'est peut-être ça le problème. C'est justement que Amazon aurait sans doute voulu proposer quelque chose de plus.
Généraliste,
voilà. Sauf que vraisemblablement, ils n'y arrivent pas.
Ils ont essayé très fort et au final, on revient à la queue entre les jambes. Le gaming, c'est passé. Enfin, partout, hein, d'ailleurs.
Comme Discord. Ils voulaient se dire, ah, c'est bon, c'est aussi pour les profs, machin. Non, à la fin, c'est quand même la communauté de gamers qui vise. Hein.
C'est ça. Le gaming est devenu tellement mainstream. Enfin, je pense, on a enfin fait la réalisation sur tout. Genre, à un moment, non, c'est pas niche le gaming, c'est quand même grave mainstream. Tout le monde joue aux jeux vidéo, on peut le dire, tous les jeunes jouent aux jeux vidéo, connaissent un peu les jeux vidéo, ils y jouent activement, ils y jouent en regardant Twitch plutôt qu'en jouant eux-mêmes, mais c'est un sujet, on ne peut pas le séparer du généraliste. Il y a des ponts, il y a des connexions entre les deux, il y a beaucoup d'influenceurs qui venaient du gaming, qui s'épanouissent dans du IRL, dans du lifestyle, mais qui gardent toujours un pied dans le gaming. Enfin, ceux qui ont essayé de sortir complètement du gaming ont fini par y revenir. Je pense à Magla qui avait eu vraiment un vrai moment où elle voulait vraiment partir sur du lifestyle pur, et ça correspondait trop à son début de carrière de jouer en parlant à son chat. Et au final, d'y revenir, parce que c'est ça l'essence de Twitch, parce que ça marche toujours. On peut faire un peu les deux, mais ignorer complètement l'aspect gaming de Twitch, ça a été une vraie erreur, et je pense que Twitch n'est pas aidé sur ça.
Intéressant ce que tu as dit, quand tu dis qu'il y a des gens, qui jouent en même temps qu'ils regardent des streams, c'est vraiment le seul produit culturel au monde que tu peux consommer de deux façons simultanément. Ouais. Tu consommes ce produit toi-même, tu en as acheté un, tu es en train de l'utiliser, en consommant quelqu'un qui consomme à côté et qui n'est pas le même. C'est inenvisageable dans un autre média.
Mais c'est sûr, après, pour ce volet-là du streaming, je pense qu'effectivement, à un moment donné, la bulle, celle-ci, concernant le streaming en tout cas, n'a pas tardé à exploser. Je ne sais pas si ce sera en 2024 qu'elle explosera, Mais j'ai bien peur qu'à un moment donné, on en voit le bout. Quoi.
La prochaine fois où ils vont toucher le rêve cher, ça ne sera pas pour l'augmenter. Oui. Et la question, c'est quand. Et le moment où déjà beaucoup de... Enfin, la fameuse répartition de l'audience, quand le stream a fermé l'année dernière, ils avaient beaucoup expliqué qu'il y a aussi le fait que les top streamers sont toujours en haut, mais pareil, aussi stagnent. Et que comme il y a de plus en plus de streamers, l'audience est vraiment étalée, la pyramide est de plus en plus plate.
Plus un demi-million de nouveaux affiliés sur Twitch en 2023.
C'est ça, avec une audience qui est à peu près constante. Ouais. Bah forcément, le gâteau se divise en plus en plus de parts. Et le moment où on touchera au rêve cher, qui est déjà pas...
Pas dingue.
C'est déjà pas dingue. Pour se dégager un SMIC, il faut un bon socle de 200-300 subs et un bon 1000 balles de pub par mois pour y arriver en net. Tout le monde n'y arrive pas, loin de là. Et si jamais il retouche au rêve cher, qu'il le baisse à 40, qu'il le baisse à 30, qu'il le baisse à 20, là il y aura effectivement explosion de bulles et plein de gens qui vont devoir repartir faire autre chose ou en tout cas développer leur autre réseau. C'est l'année du développement.
Il faut développer son réseau TikTok.
C'est l'année où il faut mettre ses clips TikTok, te faire l'effort de faire ses clips TikTok. D'ailleurs, Twitch a rajouté une fonctionnalité TikTok. D'ailleurs,
avec assez peu de succès, hein, pas se mentir, mais néanmoins voilà, TikTok vraisemblablement est la nouvelle valeur sûre pour les prochains mois. En tout cas, en attendant d'autres concurrents.
Voilà. C'est toujours le meilleur algo en termes d'algo de proposition. TikTok est quand même toujours le plus fort depuis. Enfin, ça fait le succès de TikTok à son lancement. C'est toujours la meilleure feature. Aucun autre réseau social ne tape aussi bien. Alors, le pour vous, Twitter, un petit peu maintenant. Mais ouais. TikTok, où vraiment de. Waouh, sur 100 contenus proposés, il y en a 95 qui font mouche. C'est stupéfiant. Et même si vous avez. Si des auditeurs parmi nous n'ont jamais essayé TikTok parce que c'est pour les jeunes, c'est pour les décérébrés, machin et tout. Il faut en faire l'expérience. Je ne vous dis pas de pas perdre votre temps dessus, mais vraiment faire l'expérience de. En une dizaine de swipes. TikTok vous a compris et c'est stupéfiant de voir quel point ils sont forts pour la suggestion de contenu.
Et du coup, effectivement, c'est là qu'entrent en jeu les influenceurs, même gaming. Damdam, par exemple, est sur TikTok, notamment pour donner des tutos sur comment streamer, comment se lancer dans le milieu du streaming. C'est pas que des trucs abrutissants. Oui, j'ai des vidéos de prout dans mon feed, bien sûr, parce que je like ce genre de vidéos, j'adore ça, les prout, ça fait rire. Mais le fait est qu'à côté, j'ai aussi des vidéos plus informatives sur le jeu vidéo, par exemple. Je suis un mec sur TikTok où, concrètement, son job, c'est il nous montre sa collection, par exemple. Et en fait, c'est toujours super intéressant. Ça me rappelle quelqu'un qui s'est lancé sur TikTok. Mais le fait est que.
Il va falloir, vu ce que tu as dit de façon en 2024, si c'est la nouvelle tendance.
En fait, le truc, c'est que. Ce
n'est pas un podcast, c'est un rendez-vous pour l'emploi, c'est ça.
D'ailleurs, monsieur, avez-vous tous vos papiers?
Alors.
Non, mais plus sérieusement, le truc, c'est que il faut au moins mettre ses billes dans plusieurs paniers. Et aujourd'hui. Le meilleur moyen de percer facilement, ça va être sur TikTok, en plus donc de Twitch. Le TikTok a ces facilités-là parce qu'il y a un pouvoir de découverte, il suffit d'une vidéo pour que ton compte explose.
On peut percer avec un TikTok sur TikTok, plus le cas nulle part ailleurs. Sur 2023, je me rappelle, il y a un buzz Twitch, un inconnu qui s'est révélé sur Twitch, c'était le joueur de Smash Bros qui est chez BMS eSport, qui avait fait un live à sa caisse de Carrefour.
Oui, bah oui.
Voilà, c'est le seul. En 2023, c'est le seul auquel je peux penser qui s'est révélé avec un buzz sur un contenu et qui est devenu voilà, qui pèse maintenant, qui est reconnu.
Voilà,
mais qui
après a arrêté, c'est assez marrant ça aussi, parce qu'il a très vite arrêté, parce qu'en fait, il ne s'attendait pas à un tel succès, et la pression de ce succès-là l'a empêché de reprendre.
Que maintenant, il est dans la team avec Joël, il n'est plus en individuel, mais voilà, il n'y a guère plus que sur TikTok qu'on peut avoir un tac, tu décolles, et tu peux monter quelque chose. Sur les autres plateformes, c'est absolument plus possible.
Parlons quand même aussi des sorties jeux vidéo. Il y a eu des belles choses cette année, en tout cas davantage qu'en 2021-2022, j'ai cette impression. Surtout 2021. On est sorti en fait d'une période un peu compliquée où on était à cheval entre deux générations. Alors c'est toujours un petit peu le cas cette année, mais un peu moins. On a eu des gros jeux qui sont sortis, des grosses licences qui sont finalement sorties. Je pense à Assassin's Creed Mirage, mais aussi du coup à Starfield, évidemment, sans compter Baldur's Gate 3, mais on va le mettre à part parce qu'il est en early access. Globalement, comment vous retenez cette année en termes de sorties jeux vidéo? Elle a été satisfaisante, Antistar?
Très. Je considère que depuis 2017, c'est probablement la plus intéressante qu'on a eu en termes de line-up. Il n'a pas manqué grand-chose en fin de compte. J'ai presque envie de dire qu'il y a un seul constructeur qui n'était pas trop au rendez-vous pour une fois, c'était Sony, qui avait vraiment eu un line-up de fou en 2022. Ça s'est un peu essoufflé cette année.
Il y a eu Spider-Man pour rattraper le tout.
Spider-Man, c'était top. c'est déjà bien. La seule vraie grosse exclu maison qu'ils avaient, elle est top, ça c'est indéniable, mais c'est vrai qu'on a été habitué à des années tellement ouf de la part de Sony que dès qu'ils ont qu'une seule très grosse exclu vraiment à eux, on se dit c'est un peu en dessous. En dehors de Sony, je trouve que globalement tout le monde était au rendez-vous. Et on a eu vraiment une immense diversité de choix cette année. C'est pas, t'as des années, t'as l'impression que certains genres sont complètement sous-exploités et que tu vas rien trouver à te mettre sous la dent si t'as un genre de prédilection et qu'il n'existe pas. En 2023, moi j'ai l'impression que tout le monde en a eu vraiment pour tous les goûts, que tu sois.
Il y a eu un Final Fantasy, il y a eu un Zelda, il y a eu un Mario, il y a eu un Spider-Man.
C'est vrai qu'effectivement, en vrai, c'est rare hein, d'avoir.
Il y a eu un Star Wars, il y a eu un Resident Evil,
il y a eu un Bethesda,
il enfin, y a eu un Harry Potter.
Il y a eu deux Bethesda. Alors, ne l'oublions pas.
Oui.
Il y a eu quand même du jeu de bagnole aussi. Il y a eu de l'indé de très très haute qualité, des très belles surprises. Il y a du jeu d'auteur avec Alan Wake 2, j'en reparlerai plus tard. Mais non, vraiment, pour moi, c'est une très très belle année. Et c'est pas une année fourre-tout où on se dit, ouais, bon, il y a eu tout, mais il n'y a pas eu beaucoup de grands jeux. Non, vraiment, ça fait partie de ces années où définir le fameux Big Six des Game Awards n'était pas évident. T'as des années, c'était très facile. Et tu disais même, qui on va foutre dedans comme invité surprise parce qu'on ne sait pas qui mettre, genre 2021. Là, au moins, t'avais du choix.
Alvin, toi, cette année, elle t'a convaincu?
Oui, on a repris ce qu'on disait sur le fait qu'après des années vraiment 2021-2022, poussives avec des rentrées notamment assez légère. Enfin, je me rappelle, c'est mes derniers mois à jeuxvideo.com où vraiment on s'occupait de la rubrique Solus et d'avoir vraiment genre de... C'était rare d'avoir un vrai 3 ou 4 semaines, pas avec un gros jeu, genre juste avec un jeu où on pouvait travailler nous. Alors, on s'est beaucoup rabattu. Alors, toute cette période du Covid a aussi permis l'émergence des jeux-services comme on l'avait jamais vu. Je parle de Fortnite, Genshin Impact, Honkai Star Rail. On y reviendra, mais Honkai Star Rail a été vraiment une vraie claque aussi cette année de qualité. On en avait déjà parlé dans l'émission, mais ce côté de waouh, c'est au niveau d'un grand JRPG type Square Enix, type Persona, en free-to-play. C'était quand même assez rare. L'année était dense, c'est pas l'année où j'ai le plus le temps de jouer. Enfin, jouer me rappelle le travail, c'est le drame d'être journaliste de jeux vidéo ou consultant, c'est que le Baldur's Gate, pareil, je le garde pour plus tard parce que je sais qu'il faudra, comme une envie de pisser, j'aurais envie d'y jouer.
En coop avec voilà, c'est ça. Vraiment, je te jure, le jeu en vaut la peine.
Il faudra vraiment, je sais que c'est extraordinaire, mais je sais qu'il va falloir trouver le temps. Ça a été moins le cas, j'avais essayé de faire le Zelda, emporté par la hype, j'ai voulu jouer au Zelda avant qu'il me tombe des mains, mais globalement une très belle année, on a eu de l'actu tous les mois, ce qui avait clairement pas été le cas auparavant. On est rentré dans la next-gen cette année, vraiment.
C'est vrai.
On a vraiment fini ce que tu disais sur le double cross-gen. Ça reste en 2022, cette année on peut plus.
Il y en aura encore un tout petit peu en 2024.
Harry Potter
cette année.
Harry Potter était un peu obligé, par exemple.
Ah, c'est un peu passage obligé, mais voilà. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec vous, messieurs. Cette année, pour moi, elle a été extrêmement dense en matière de jeux, de diversité aussi. C'était vraiment ça, je pense, le truc à retenir. Certes, si vous étiez exclusif à un constructeur, tous ne se valent pas.
Pas toujours facile.
Ouais. Voilà. Nintendo, globalement, ça allait parce qu'ils ont un peu sorti leur dernière grosse cartouche. Et encore, cette année 2024, ça a l'air d'être dégueulasse chez Nintendo. Mais il y en a eu vraiment pour tous les goûts, à boire et à manger. Et ça, c'est plutôt cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une belle année comme ça. Donc, j'espère que celle qui démarre là, de 2024, sera au moins aussi passionnante, notamment avec l'annonce de la prochaine console de Nintendo. On l'espère.
Quoi qu'il arrive, je suis avec toi.
Ça y est, après plusieurs années d'attente, le deuxième épisode de Final Fantasy VII Remake est enfin disponible, Final Fantasy VII Rebirth. J'ai en face de moi deux personnes qui l'attendaient, je pense qu'on peut le dire, surtout Alvin, qui est un fan, on le sait. Alvin, justement, qu'est-ce que t'en as pensé en quelques mots là? Est-ce que c'est vraiment la suite tant espérée dans la mesure où ça change quand même pas mal le scénario?
Vous voyez le sourire qu'il a, c'est un format podcast, mais son sourire trahit déjà sa réaction.
Je suis un peu ému, j'ai chialé.
Chialé carrément.
Quand je joue à FF7 Rebirth, je chiale tous les... À chaque fois que vous arrivez dans un nouvel open world, vous avez des remasters des musiques d'époque qui sont incroyables. Ce qui est incroyable dans FF7 Rebirth, alors vraiment, je pose mon point de vue parce que FF7 est vraiment spécial pour moi, c'est vraiment mon premier RPG important, c'est le premier jeu avec un scénario dont je me souviens, c'est mon univers, c'est l'univers où j'ai passé mon enfance dedans. C'est un jeu important pour moi. Et FF7 Rebirth s'adresse... aux fans, c'est que, et vous avez joué à ce jeu-là, c'était il y a 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde du jeu vidéo, et vous êtes toujours là, et Il y a des moments.
Il a les larmes aux yeux, vous le voyez pas, mais il a les larmes aux yeux.
Dans le début de FF7 Rebirth, donc tout le jeu de comme FF7 Remake, c'est que c'est un remake, donc c'est la même histoire. Et parfois, ils rajoutent des choses, ils rajoutent des grosses séquences dans le jeu. Et il y a tout un talent sur FF7 Rebirth où vraiment, encore plus que sur Remake, ce moment de genre, ok, là c'est pareil. Tiens, t'as vu, là on passe sur un truc, c'est plus pareil. Et d'avoir des moments où le jeu est très conscient de ça, et le jeu arrive à vous touiller. Dans le début du jeu, il y a des moments où on vit une des grandes séquences, donc on est au début du... On est juste après Midgar, on est au moment où Cloud raconte ce qui s'est passé à Nibelheim, le moment où Sephiroth a brillé, et où FF7 commence, c'est vraiment ce moment de... Quand Sephiroth va à Nibelheim, il se rend compte qu'il est une expérience génétique, et qu'il veut se venger de la Terre entière, et il passe dans une rage incroyable. Et donc, on sait, le joueur sait qu'on va s'acheminer sur ça. Et le jeu se permet de vous touiller, de vous mettre d'un seul coup, genre, non mais tiens, tu vas passer par une petite corniche là, machin, ah là, un petit moment où tu dois te faufiler entre deux murs, et puis le jeu le fait un peu durer, parce qu'il sait, il y a vraiment une conscience du fait que les fans attendent des choses, et le jeu réussit parfois à les garder. Et il y a un vrai talent pour jouer avec le fan que je suis, qui... sont trop forts. Trop forts, les gars. Vraiment, vous saviez exactement comment jouer avec moi. On a fait des progrès considérables par rapport à FF7 Remake. Et comme le FF7 original. Le FF7 original, vous avez toute cette partie dans Midgar. Vous vous dites, genre, waouh, c'est déjà fou si on va faire tout le jeu dans Midgar. Tout ce qui se passe à Midgar, c'est des dingueries. Et puis vous sortez de Midgar et vous voyez, genre, waouh, mais le jeu ne faisait que commencer.
Oui, parce qu'en fait, FF7 Rebirth vient concrétiser encore davantage, j'ai l'impression, que Remake, une vision que les développeurs avaient à l'époque du FF7 original, mais qu'ils ne pouvaient pas, parce que voilà, on était sur PS1, hein, donc à un moment donné, faut aussi se replacer dans le contexte, avec un grand monde ouvert, enfin en tout cas des zones grandes ouvertes, puisque c'est pas un vrai monde ouvert, le désespérance en termes de scénario, de mise en scène, etc. Pour moi, de ce que j'en ai vu, et vous allez peut-être me le confirmer, c'est qu'on n'a jamais eu aussi peu de différence entre les cinématiques, même celles en CGI, parce qu'il y en a, et le jeu, le gameplay, c'est assez hallucinant, et c'est de Unreal Engine 4, hein, c'est pas du 5. Hein. Ouais. Donc est-ce que du coup, vous pouvez me confirmer ça? Est-ce que vraiment le jeu est visuellement très impressionnant?
Un peu moins, je sais pas ce qui me marque le plus.
Alors, on sait qu'il y a quand même des problèmes entre le mode performance et le mode fidélité.
Je trouve les lumières un peu cheloues tout le temps, je trouve les lumières sont trop claires. C'est pas ce qui me marque le plus, mais ce qui marque le mieux, c'est que c'est fluide entre ces périodes de open world, mode couloir, cinématique, scénario, le jeu qui te dit explicitement, genre de. Tu peux t'arrêter là, faire un peu d'open world machin, en te faisant bien comprendre que comme dans le FF7 original, de toute façon, toute cette première traversée de l'open world, tu pourras y accéder de toute façon autant de temps que tu voudras, avec du fast travel, avec voilà, beaucoup de contenus qui sont proposés, mais le jeu ne te force pas non plus à le faire. Il te dit, genre, chaque région où tu arrives, avant vous étiez sur une world map où vous aviez effectivement une ville et des monstres qui correspondent à la ville autour, là ça a été vraiment fait de façon très propre, c'est vraiment de l'open world 2024, le haut du panier, absolument pas révolutionnaire, mais extrêmement bien exécuté, du contenu secondaire d'intérêt, voilà, si vous voulez faire un peu de combat, bah vous avez un peu de combat, si vous voulez l'exploration, vous avez l'exploration, si vous voulez la tour radio, vous avez la tour radio, de la quête scénarisée, vous en avez 3-4 par ville, mais pas non plus des masses, voilà, vraiment à la carte, très, très haut niveau des attentes qu'on a de gameplay d'un jeu de 2024, mais avec toujours, surtout là, de FF7, c'est ces personnages, c'est cette histoire. Je suis pas encore arrivé au bout du jeu, je pense plus en être très loin, mais tous ces twists, toute cette façon qu'a le jeu de jouer avec le fait des fans, et cette promesse à la fin de, sans vous spoiler, à la fin de FF7 Remake, qui est sorti il y a 4 ans, le jeu vous dit explicitement, cette fois-ci c'est différent.
Okay.
Qui est une des phrases les plus dangereuses à dire dans sa vie.
Hein, oui, c'est ça.
Cette fois-ci c'est différent est une phrase dangereuse, faites attention avec cette phrase, mais... À la fin de FF7 Remake, il y a vraiment un moment où Sephiroth connecte avec le truc de Cloud. Tu pensais que, mais c'est quoi, non.
Et
donc,
non.
Tout le jeu est basé sur ce suspense, sur ces petites choses qui changent un petit peu. Red 13, on l'a dès le début du jeu, on l'obtient plus tard dans le jeu original. La rencontre avec Yuffie, voilà, le disque 2, c'est le moment où on recrute Yuffie, a été changé, mais tout s'est réemboîté bien, ces petites différences, ces contenus rajoutés, et le fait qu'on sait que, à la fin, ce qu'ils disent depuis le début, qu'est-ce qui se passe à la fin? On sait comment ça se passe à la fin. Et là, on ne sait pas comment ça se passe à la fin.
C'est ça la subtilité, c'est qu'effectivement, on sait comment ça se passe, mais on sait que ça va pas se passer comme ça, et c'est ça qui est le
plus
fort.
Ils arrivent à jouer, ils arrivent à créer un truc autour de ça qui est captivant.
Tu joues constamment en te disant je connais cette histoire, mais ils vont me surprendre, mais je ne sais pas à quel moment ni de quelle manière, et c'est ça qui est le plus fort, parce que ce jeu là en fait, et c'est vrai que c'est un peu le problème du fanservice, tu joues à FF7 Rebirth sans avoir joué à Final Fantasy 7 à l'époque.
Je pense
soit
que tu manques un grand truc
en fait, le seul moment où tu kiffes, c'est si tu as joué à FF7 Remake en disant je n'ai jamais joué à Final Fantasy 7, je vais faire le remake. Et en vrai, le remake sur 17 chapitres sur 18, il est extrêmement fidèle. C'est vraiment la fin qui prend une direction surprenante, tu te dis ok, ça va être différent.
Oui, c'est des contenus un peu rajoutés, c'est évasif.
Et c'est littéralement pour ça qu'ils ont sorti Crisis Core Reunion, pour que tu comprennes un petit peu mieux qui est Zack, que tu comprennes les tenants et aboutissants de c'est quoi cette fin, quoi.
Alors moi justement, hein, je peux vous en parler parce que moi j'ai jamais fait le FF7 original, parce que bah j'avais pas de PS1, j'avais une Nintendo 64. Oh. Et le truc c'est que effectivement moi j'ai fait FF7 Remake sur PC, j'ai beaucoup aimé le jeu de par son gameplay, parce que le gameplay je le trouve vraiment exceptionnel.
Le système de combat de
c'est
jeu
ça
top.
Le système de combat est vraiment incroyable.
On a un peu d'investissement pour y rentrer dedans, pour
c'est
être
ça.
Bon,
mais
il
une fois,
est,
une
il
fois,
est meilleur dans Rebirth.
Ah mais ça je veux bien vous croire meilleur. Et justement on va en parler, parce que moi ce que j'avais vraiment, enfin je veux dire, l'apothéose du combat contre Sephiroth à la fin de FF7 Remake, et pour moi le enfin montre à quel point le système de combat est bien fait en fait. Ah. Vraiment j'ai adoré cette séquence qui est très longue parce que c'est sur plein de sections, mais c'est très très bien. Le système de combat est vraiment, je le pense sincèrement, est vraiment très bon.
Hot take, c'est le meilleur combat d'un Final Fantasy sur la génération passée.
Oui, ça c'est clair, et pourtant j'ai fait
FF16 et en vrai même en comptant la génération actuelle.
C'est ça. Mais alors bon, je voulais quand même vous poser une question, parce que moi ce que j'ai un peu regretté, c'est qu'il y a beaucoup de remplissage dans FF7 Remake. Je pense oui, vraiment mais... l'exemple le plus parlant, c'est la partie dans les souterrains où tu dois faire en sorte qu'Aerys passe de bras de robot en bras de robot, et c'est éternellement long. Tu ne sais pas pourquoi c'est aussi long, mais tu sens bien que c'est quand même pour faire du remplissage.
Alors,
et ça. Surtout, moi, ce qui m'a agacé, je me permets de finir ma pensée, c'est que t'as l'impression, dans beaucoup de JRPG, et pas que dans FF7 Remake, que les studios japonais sont en mode « Oh là là, c'est un JRPG, donc en fait, il faut absolument que le jeu fasse 60-70 heures. » Donc, on va faire en sorte que parfois, des séquences soient longues, rajoutées, inutiles, pour arriver à, tu sais, ce truc « Ok, ça, c'est bon, ça fait 70 heures, on peut arrêter le jeu. »
Alors,
et c'est très chiant, en fait. Mais ça n'empêche pas que le jeu est très bon. Mais t'as quand même ce genre de section.
Moi, je vais t'expliquer pourquoi, j'en suis convaincu, c'est que FF7 Remake s'adresse quand même en grande partie à des gens qui ont fait FF7 et pas qu'une fois.
Bien sûr.
FF7, quand tu le fais la première fois, c'est un jeu, tu vas passer 30, 40, 50 heures dessus, je pense.
Bon, et tu loupes plein de trucs.
Voilà. Mais c'est vrai que la longueur du jeu est bien aidée par les loadings aussi de la PS1, hein, ça rajoute. Quand tu arrives sur FF7 Remake, tu te dis, je connais tellement cette histoire, je vais le torcher en 7-8 heures. Et tout est fait pour que même la personne qui connaît le mieux Final Fantasy VII au monde ne puisse pas le finir en moins de 20-25.
Okay.
Oui, c'est du remplissage, mais il faut en fait avoir cette espèce d'esthétique triple A moderne où, oui, tu vas avoir effectivement du remplissage, mais il faut te donner l'impression que le monde de Midgar, il est immense. Donc ils sont obligés de faire du remplissage.
Alors là, ils sont beaucoup améliorés sur les sections open world. Voilà, vraiment, c'était le truc qui revenait de Midgard. Genre, ah ok, vous avez essayé de faire de l'open world dans Midgard avec 3 missions. Voilà, c'était difficile à faire rentrer dans l'univers et dans ce moment-là de l'histoire. Là, comme le jeu original vraiment s'ouvre une fois qu'on est sorti Midgard, c'est le cas aussi pour FF7 Rebirth. Est-ce que tu sais sur le fait du remplissage, là, ce qui est plus voyant sur Rebirth, c'est de se rendre compte à quel point le cahier des charges des FF7, 8, 9 d'origine PlayStation, c'est les minigames.
Oui, c'est ça aussi. Il y a la partie au casino,
vraiment,
notamment.
Mais alors, s'il n'y avait que le Gold Saucer, s'il n'y avait que le casino, c'est vraiment de. Non, c'est vraiment de. Et c'était la marque des vieux Final Fantasy. Et ça, moi, je le redécouvre avec Rebirth, à quel point un donjon a forcément un mentor à une énigme qui est un mini-mini-jeu. Mini-jeu vraiment genre pas ouf, hein, qui est vraiment un mini-jeu auquel tu joues 3 fois et qui a vraiment pas beaucoup de progression. Mais que. C'est ça l'ADN de FF7, c'est le côté un peu goofy, dans cette histoire tragique, dans cette fuite en avant qu'il y a, voilà, on a des suspensions de crédulité absolument incroyables, les mecs sont recherchés par la Shinra, puis arrivent au Hawaï de la Shinra, et personne ne les cherche. Ils sont là, ils se baladent, ils sont en train de faire les trucs, ils arrivent au Gold Saucer, ah, machin, ah, mais vous n'avez pas eu un avis de recherche sur vous, genre de, ah oui, c'est vrai, bon, vite, dépêchez-vous, vous êtes sympa quand même. Enfin, que des trucs comme ça.
Comme FF15 avec le coup des photos, alors voilà, que le roi
ça,
est mort, quoi.
Mais ça, c'est l'ADN de Final Fantasy. Sur ce côté, sur un truc très tragique, il y a des grosses suspensions de crédulité en mode genre de, bah non, il y a quand même plein de trucs sympas à faire dans ce monde-là, et puis vous êtes sympa, vous. Mm. Donc vas-y, prends ton temps, machin. Genre, ah, faut sauver la planète, mais t'inquiète, va faire une course de chocobo si tu veux. et qui fait partie de la vibe.
Beaucoup de JRPG en vrai font ça. Hein.
Oui, oui.
Pour moi, ce côté, on va dédramatiser en faisant des trucs qui sont complètement triviaux.
C'est très JRPG.
Avec ce format de proposer vraiment beaucoup de mini-games où vraiment tu as des objectifs, où tu peux les refaire avant, après, plus tard, c'est très Final Fantasy quand même. Et je me rends compte à quel point le 7, c'était ça. Et de m'en rendre compte plus tard. Mais voilà, en termes de fanservice, je comprends le Metacritic. Le Metacritic, il était à 92 à la sortie. Ouais. Alors que le jeu serait perfectible pour des gens qui ne sont pas fans. Pour des gens qui ne sont pas fans, je pense qu'on peut redescendre vers du 85.
Okay.
Que c'est une grande histoire. Vous allez découvrir un univers de fou. Un open world bien fait, mais pas très innovant non plus. Des moments quand même qui sont quand même perfectibles si vous n'êtes pas fan comme moi. Par contre, si vous êtes fan, si c'est un jeu, si c'est un conte d'enfance, pour moi, FF7, c'est vraiment un conte d'enfance. Ce que je vous disais, une ville sur deux, on arrive, je chiale en écoutant la musique parce que ils savent exactement où aller chercher, ils connaissent ces joueurs qui sont fans depuis 20 ans.
Et tu sens.
Ils savent où aller les chercher et les attraper par le 1, tu vois.
Ouais, c'est ça, ouais. Et tu sais que Nomura a fait un taf monstre de ce côté-là à destination des fans parce que de toute façon, c'est ça le vrai premier public de FF7 Remake.
Ils sont connexion mentale, mais ce vrai effet où ça me. Après des années de jeux vidéo où maintenant c'est le métier, on a testé tous les trois autour de cette table, testé des milliers de jeux vidéo. On joue plus à la même façon aux jeux vidéo que quand on a joué à FF7 à l'époque. Et ben FF7 me renvoie à 20 ans. Je suis en dialogue avec l'enfant de 12 ans que j'étais quand je jouais à FF7. Ouais,
Antistar, toi, est-ce que tu es en dialogue avec. Alors, t'es un petit peu plus jeune qu'Alvin, mais.
Pardon ?
Ah non, c'est vrai que t'es plus vieux qu'Alvin.
Non, mais putain, j'ai 4 ans plus qu'Alvin.
Est-ce que toi, ton toi de 15 ans, et non pas de 12
Justement, moi, je veux parler. Alors, je veux revenir sur cette histoire de musique parce que c'est très important. Je considère. C'est. Peut-être un point de vue un peu marginal, je considère que la plus grande force, le truc sur lequel FF7 Rebirth est le plus ouf, c'est les orchestrations musicales. Le travail qui avait été fait sur Remake était absolument ma boule. Le jeu avait eu, bon j'étais modérément d'accord avec ça parce que ça reste un remake, le Game Award de la meilleure OST, mais en vrai c'était exceptionnel ce qu'ils avaient fait sur Remake. Sur Rebirth, je trouve que c'est encore plus fort. C'est-à-dire que, pourtant, on n'avait pas une OST son cartouche dégueulasse à l'époque. On était sur PlayStation 1, on avait du son CD, on avait déjà une orchestration digne de ce nom. Et c'est vrai qu'on s'imaginait à quoi pouvait ressembler cette OST avec un peu plus de moyens. Je repense toujours à tous ces groupes de métal amateurs qui ont fait leur One Wing Angel pendant 10 ans, jusqu'à ce que Advent Children leur fracasse leur rêve dans la gueule. Parce que quand tu entends commencer, tu te dis « Ok, ça sert plus jamais à rien d'en faire une cover, Square Enix, ils sont trop forts. » Et Square Enix, il y a un truc qui m'impressionne avec eux, c'est que leurs jeux sont pas toujours bons. Mais alors, il y a un domaine sur lequel ils sont intouchables, c'est les OST. Ils ont vraiment, pour moi, les meilleurs musiciens de la planète quand il s'agit de faire de la musique de jeux vidéo.
Je suis d'accord.
Et là où ils sont incroyablement forts, c'est que quand il faut réorchestrer des musiques qui sont connues par tout le monde, qu'on a entendu pendant des années de Distant Worlds, qu'on a eu dans les Theater Rhythm, dont des gens ont fait des tonnes de covers, et bah ils disent et bah ça on va le remake à notre façon et ça va être la meilleure version qui soit et tu peux rien faire parce que de bout en bout t'es bercé par la nostalgie et même si tu connais pas les thèmes que tu les entends la première fois tu te dis ah ouais quand même il y a un niveau de maîtrise c'est incroyable
et tu te rends compte voilà à chaque fois que tu rentres dans une zone genre de putain mais cette chanson mais cette musique je la connais de pouvoir la tout de suite la fredonner et en même temps les nouvelles et enfin ça c'est le plus c'est le plus évident. Parce que t'as raison, ils ont déjà annoncé la tournée des concerts. Ils ont déjà annoncé une tournée du concert.
Oui, c'est ça, voilà.
C'est une industrie chez eux, Square Enix aussi, le produit dérivé musical, bien plus que chez tous les autres.
Square Enix, ils ont leur propre label, Square Enix Music.
Et leur propre orchestre qui fait les tournées, quoi. Donc, trop.
Alors, globalement, donc, je vous pose quand même la question, hein. Vous le conseillez vivement, que ce soit pour un non-fan comme pour un fan?
Pour les fans, il n'y a aucun doute, il n'y a aucune seconde. Si FF7 a été un jeu important pour vous, vous savez très bien ce que vous avez compris.
Ok.
Allez-y, vous serez jamais déçus.
On est ensemble.
Si c'est nouveau, vous allez découvrir un univers qui est singulier, d'où vous comprendrez l'importance, vous aurez peut-être un peu le poids. C'est comme quand on te dit, genre, oh mais regarde ça, c'est un chef-d'œuvre. Ça sera peut-être un peu difficile à apprécier parce qu'on vous aura tellement dit que c'est un chef-d'œuvre que vous allez vous mettre beaucoup de pression et ça ne va pas vous sauter aux yeux. Il n'empêche que c'est un cas de Final Fantasy. C'est le Final Fantasy le plus abouti de ces 10 dernières années. En termes de contenu, en termes de propositions, en termes de gameplay, en termes de mini-jeux, en termes de variété. Ça reste Final Fantasy, donc ça reste quand même un jeu qui a un peu 10-20 ans dans son esprit, dans sa conception. Mais c'est quand même la version la plus raffinée de ce qu'a pu être Final Fantasy en tant que grande saga à un moment. Est-ce qu'aujourd'hui, un joueur qui aurait 16 ans qui découvrirait Final Fantasy avec celui-là
aurait le même
Il va pas préférer d'autres RPG peut-être un peu plus accessibles? peut-être. Pour autant, voilà, FF7 Rebirth est parfaitement raccord avec le monument que a pu être.
Même si évidemment, faites FF7 Remake avant. Hein,
ah oui, alors ça c'est nécessaire.
Idéalement. Idéalement, oui, parce que sinon.
Non, mais même pas idéalement, nécessairement, vous ne comprendrez rien à Rebirth si vous n'avez pas joué à Remake, ça n'a aucun intérêt.
Il y a un tout petit résumé au début, en fait, mais ça ne fait pas sens.
Il y a une façon dont il faut voir FF7 Rebirth, c'est que nous on le voit énormément par le prisme des gens qui avons joué à FF7 et qui connaissons FF7. Il faut s'imaginer que quand FF7 Remake arrive, tu as des gens, ils n'ont jamais joué à l'original. FF7 Rebirth, ils le voient comme la suite de ce jeu auquel ils ont joué il y a 4 ans, de la même façon que, je dis n'importe quoi, on a joué à The Last of Us 2 quand on avait découvert The Last of Us, ou qu'on a joué à God of War Ragnarok. Il y a énormément de gens qui sont comme ça aussi. Ils ont découvert FF7 Remake, ils ont kiffé, ils veulent savoir la suite, et ils savent très bien que c'est une trilogie, que ce sera en 3 volets.
Ils vont pas être déçus.
Fin d'année dit également saison des suites, et on va commencer avec la suite très très attendue. Je pense que c'est un doux euphémisme de Alan Wake. Après de nombreuses années d'attente, c'est Epic Games qui a mis la main à la poche pour éditer et donc lancer le développement de cette suite signée Remedy, c'est important, qui revient après avoir annoncé qu'ils créaient leur propre univers, le fameux Remedyverse. Ça s'est notamment traduit
en fait, c'est
par...
C'est Control 2 en fait.
C'est Control 2. Non, non,
le
mais il y a une suite. Il y a une suite effectivement de Control qui est en développement, même deux suites je crois, avec un jeu multi, un truc comme ça, enfin bref, tout cela est encore en développement. Mais surtout ils ont raccroché un peu les wagons avec un DLC qui a créé un lien entre Alan Wake et Control. Lui-même, Control était lié à Quantum Break. Voilà, on attend le lien avec Max Payne maintenant, je sens que ça va être on verra, mais en tout cas voilà, il y a une volonté de Remedy de créer un univers plus global et pas uniquement lié à Control, et c'est plutôt une bonne chose puisque effectivement Alan Wake 2 est sorti et vraisemblablement selon les tests, alors je ne l'ai pas terminé, je préfère être sincère avec vous parce que eh bien on t'aime.
Terminé. Quoi cette excuse? Un mec qui joue à Alan Wake 2, il relance en thème quoi.
Plus sérieusement, j'avais effectivement d'autres jeux à faire, notamment le jeu suivant, mais les tests ont démontré que le jeu était à la hauteur, je pense, de l'attente que l'on avait envers lui, et surtout à la hauteur de la prouesse technologique qu'avait été Control en son temps, parce que là vraiment vous allez me le dire hein, c'est un jeu qui est particulièrement beau. Kokobé, toi t'as pu jouer à Alan Wake 2, premier avis, qu'est-ce que t'en as pensé déjà?
Technologique, je sais pas, artistique c'est indéniable, c'est juste indéniable, le jeu est magnifique, le jeu est magnifique dans ce qu'il montre. Il est magnifique dans la mise en scène, il est magnifique dans les jeux de lumière, dans ce côté un petit peu maintenant, dans cette technique un peu étonnante que Remedy a maintenant mis au point avec notamment Control, de mélanger beaucoup de prises de vue réelles avec ce qui se passe en 3D à l'écran. Un énorme travail sur la performance capture, vraiment les visages sont vraiment bons, mais vraiment vraiment bons. En fait, ce jeu a un charme magnétique. Alors, je pique le terme à Pippo, Pippo Mantis, hein, qui m'a sorti ce terme magnétique. Mais oui, ce jeu est. En fait, il nous hypnose, il est là, il nous attire dans son univers bizarroïde entre, on va dire, univers lynchéen enfin on est un mi-chemin entre Twin Peaks et un roman de Stephen King et on sait pas trop où on est, et puis il y a ce côté SCP toujours, hein, Fondation SCP qui est ouvertement une inspiration que Remedy a dit pour Control avec ces espèces, cette magie de l'ordinaire un peu presque, c'est scientifiquement inexpliqué mais en même temps un peu expliqué quand même, ce qui fait qu'on est toujours on est toujours en train de remplacer ce qui manque avec notre cerveau, ce qui nous plonge parfois dans des espèces de conception métaphysique incroyable. Mais Alan Wake donc reprend tout ce qui avait été vraiment extrêmement séduisant dans Control et l'applique entièrement à Alan Wake, qui alors en ce qui me concerne n'était absolument pas un jeu que j'ai apprécié à l'époque. C'est un jeu qui m'était tombé des mains quand j'avais joué en 2011-2012 dans ces eaux là il était sorti en 2010, j'avais récupéré d'occasion, donc là j'ai relancé Remastered, j'ai fini Remastered pour jouer à Alan Wake 2 et pas être trop perdu avec le scénario, et j'ai bien fait, à mon sens, parce que vraiment, il est le Alan Wake 2 est le jeu qui entre de plein pied dans on vous balance 4 références à la seconde.
C'est ça.
Il y a 10 000 clins d'œil qui font référence à Control, qui font référence à Alan Wake premier du nom, au DLC. Alors, j'ai pas fait les DLC en ce qui me concerne, mais il y a même des moments en fait où après avoir fini le jeu, je tapais le nom d'un lieu en question, je dis, ah mais oui, c'est un lieu qu'il y avait dans le contrôle. Enfin vraiment, il y avait des tu te rends compte en fait à quel point ils ont vraiment voulu mélanger. Mais du coup, il y a un côté du coup très généreux. En fait, le jeu est ultra généreux dans ses références, ce qui le rend extrêmement sympathique parce que de toute façon, en tout cas en ce qui me concerne, je ne compte pas faire le moindre sens du scénario d'Alan Wake.
Je ne... comme on l'a fait, on avait fait ce même choix avec Control. Hein,
exactement.
Sentir, hein,
c'est je un pense rail, que même, le principe, c'est la destination.
Voilà, hein. le même en lisant tous les documents, perso, moi, j'ai pas compris l'histoire de Control. Enfin, c'est une réalité. Après, j'ai plus compris l'histoire des DLC, qui a l'air d'être un peu plus, en tout cas, qui
straightforward,
semble-t-il, est un peu mieux construite. Mais le pour le coup, tu disais qu'il fallait avoir joué à Alan Wake premier du nom, il faut aussi avoir joué au DLC Alan Wake de Control pour
il faut
bien comprendre le 2.
Il faut pas, mais je pense regarder quelqu'un y jouer, c'est pas mal.
Oui, voilà, il y a des vidéos YouTube qui font 45 minutes, c'est parfait. Sinon, il y a le résumé de l'histoire avec Sam Lake sur YouTube. Voilà.
Mais voilà, c'est-à-dire que quand on rentre dans Alan Wake 2, alors déjà, on est surpris parce qu'on joue pas Alan Wake. On joue donc Saga Anderson, qui est donc cet agent du FBI.
On est surpris, oui et non, parce que les gens qui s'intéressent à Alan Wake ont tous regardé les trailers, ils sont déjà tous
au
courant.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Non, bien sûr, mais moi, en plus, il y a tellement de jeux qui sortent, je ne m'intéresse plus au jeu avant qu'ils sortent. Ouais. C'est une nouvelle.
Assez d'accord. En fait, il faut regarder le premier trailer pour avoir une note d'intention, mais après, tu évites les autres. Si le jeu te plaît, tu évites les autres parce que ça t'en dit trop.
Oui, mais Alan Wake, je comptais pas le faire. Donc là, je suis rentré un petit peu, parce que je venais ici aujourd'hui, donc allez, on va faire Alan Wake 2. Il se trouvait que je l'avais à disposition via la presse. Et du coup, quand j'ai lancé le jeu, que j'ai vu qu'on jouait Saga Anderson, donc cet agent du FBI qui vient pour enquêter sur un meurtre, plutôt sur un cadavre qu'on a trouvé au bord du lac Cauldron Lake, donc qui est le lac du premier épisode. Vraiment, on est dans Twin Peaks, quoi. Vraiment, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on arrive.
C'est l'Amérique, l'angoisse, les gens qui te regardent bizarrement.
C'est le village américain, c'est l'État du Washington. Ouais. C'est ce truc un peu montagneux, forestier.
C'est isolé. C'est un peu touristique quand même, mais pas trop. On te regarde bizarre. Et surtout, ce personnage donc de Saga Anderson qui rappelle énormément l'agent Cooper de Twin Peaks, qui a son mind palace, là, son palais mental, dans lequel elle peut en fait réorganiser ses pensées, faire des déductions. Ça, c'est assez dingue. Je trouve que artistiquement, c'est assez ouf.
Oui, c'est ça. C'est une des grandes qualités d'Alan Wake 2. Alors, en termes déjà technologiques, parce que c'est vrai que le moteur maison de Remedy
Northlight est extraordinaire.
Des merveilles. Même en 2023, ils ont vraiment réussi à passer encore un palier. Déjà, Control est vraiment très, très beau. Mais là, c'est encore plus beau parce que les couleurs changent. On est plus sur du rouge et du blanc et du noir.
Beaucoup de rouge quand même.
Il y a quand même beaucoup de rouge. Mais là, on est passé sur du vert sur Alan Wake. Donc non, clairement, il y a quand même des changements. Ça fourmille de détails. C'est un jeu qui est très gourmand, probablement beaucoup trop pour ce que c'est.
Digital Foundry a un petit peu atténué les craintes. En fait, c'est-à-dire que le jeu, dans ses plus basses résolutions, est déjà super beau, en fait.
Ouais. Okay.
Donc, c'est pas grave, en fait.
Il n'y a pas besoin de pousser les potards.
Voilà. Si vous jouez en médium et que vous avez une grosse config, en fait, c'est normal parce que le médium est déjà très gourmand et magnifique. Moi, j'ai une grosse config, j'ai une 3080 et je pouvais pas tout faire tourner à fond, c'est pas possible. J'ai vraiment dû réduire les potards, mettre du DLSS, etc. Par contre, le jeu est beau, quoi. Et j'acceptais clairement de sacrifier quelques images par seconde pour avoir un peu plus de détails parce que ça valait clairement le coup, ne serait-ce que dans la mise en scène, les choix de panorama.
Il y a du gameplay quand même, du coup.
Oui, bien sûr.
Ça a l'air d'être la qualité du jeu, la psychologie. J'ai le souvenir, le premier Alan Wake, c'était rugueux quand même. Alors, bien sûr, il s'est passé du temps, il y a eu Control entre-temps.
C'est pas la qualité première du jeu. Enfin, encore une fois, même
c'est
dans
pas
le
ça
2,
le plus intéressant dans le jeu quand même.
Control a plus de qualité en matière de.
Il est plus
de
fun.
Transactions.
Voilà, il est plus fun.
Mais c'est voulu comme ça, parce que c'est un Metroidvania en fait, Control. Mais du coup, les gars, le truc c'est que Alan Wake 2, pour vous, est-ce que ça signifie quelque chose? Dans le sens où, vous savez, moi, quand je l'ai vu annoncer et qu'il sortait en plus en plein mois d'octobre, je me suis dit, mais ils sont un peu dingues parce que clairement, ce n'est pas le jeu que les gens attendent. D'autant qu'il y a un complet changement de genre. Alan Wake était un jeu qui faisait un peu peur, mais plus par ses jumpscares qu'autre chose.
Puisqu'il était marketé comme ça à l'époque.
Voilà.
Control n'était pas du tout un jeu horrifique. Control, c'est un jeu d'action, très, très chouette d'ailleurs.
Inquiétant. Mais quoi. Control inquiétant, est anxiogène voilà. Quand même. Hein.
Ouais, il est anxiogène.
Je suis désolé, tu arrives dans cet immense bâtiment.
Le clip et compagnie.
Toute l'architecture brutaliste, ce couloir infini. Mais de toute façon, c'est le même type d'inquiétude que peut induire des univers de creepypasta comme Fondation SCP, Backroom et compagnie.
Et voilà, le concierge, le mystérieux concierge qui se TP, tu sais pas comment.
Lui, il est adorable. Non, mais génial. Donc il revient dans Alan Wake 2. Ça, c'est génial. C'est-à-dire, un des personnages les plus importants de Control est un des personnages les plus importants de Alan Wake 2. Et donc là, vraiment, les deux univers s'entrechoquent. Mais Atty est tellement charismatique.
Très attachant. Mais là, du coup, je le disais, on passe un complet changement de genre puisqu'on est sur de l'horrifique et du vrai horrifique. Je dois admettre que moi, je suis pas très à l'aise avec le genre horrifique. Alors, j'ai beaucoup aimé le Resident Evil, mais pour autant, c'est pas mon genre de jeu préféré parce que j'aime pas avoir peur, je vous le dis. Et j'avoue que Alan Wake 2 m'a fait peur quand même, m'a rendu très mal à l'aise, mais ça, Control avait déjà cette qualité-là. Parce que je pense qu'on peut vraiment parler de qualité dans le cas de ce malaise-là. Mais ouais, j'appréhendais le fait que ce soit un jeu horrifique, et c'est vrai que c'est un peu ça qui m'a fait chier par moments. Je trouve que des fois c'est même abusivement horrifique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Tu parlais des jumpscares sur Alan Wake 1, et je me suis rendu compte avec le recul que j'ai oublié de foutre ça dans les défauts dans mon test sur fond Android, c'est que le jeu abuse de jumpscares qui parfois sont quand même un peu inutiles. Alors oui, ok, c'est pour te mettre justement dans ce sentiment de malaise. En fait, tu as l'impression que tu n'es safe nulle part dans ce jeu.
Oui.
C'est très curieux, même si tu as des safe rooms. Les safe rooms ont quelque chose d'inquiétant, je trouve, dans leur éclairage, dans leur ambiance, je sais pas, elles sont pas rassurantes. Mais c'est probablement, et ça va peut-être paraître fou ce que je veux dire, mais c'est le jeu qui m'a le plus fait penser à Pity, Silent Hills.
Ah oui,
de tout ce qui est sorti côté, sur les 10 années qui ont succédé à ce
projet. C'est normal, c'est toute l'Americana, c'est la culture américaine, on va dire, un petit peu populaire du tréfonds des États-Unis, alors qu'on peut avoir dans le Midwest, mais on est dans l'état de Washington, donc dans le Nord-Ouest, mais il y a ce côté, on arrive dans des jardins crades, il y a la brouette qui traîne, tu te balades dans des mobilhomes qui sont un peu crado, il y a ce côté Resident Evil 7, en fait.
Ouais, ça me fait penser au Silence des Agneaux aussi, par moment.
Oui, oui, oui.
Mais ce genre d'Amérique rurale, des forêts.
Ouais, c'est ça.
C'est l'Amérique, c'est le rêve américain qui tourne mal un petit peu. C'est
ce genre de choses. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement, user des jumpscares, et effectivement, il y en a pas mal qui sont inutiles, et qui sont juste là pour faire comme ça, pour faire réagir les streamers. En fait, c'est assez terrible. Mais vraiment, j'ai eu cette sensation-là. Alors que Control avait pas besoin de ces jumpscares. Il y en a, mais avait pas besoin de ces jumpscares pour rendre mal à l'aise le joueur. Et c'est la volonté aussi d'Alan Wake 2. C'est ne pas faire en sorte que le joueur se sente à l'aise. Et de ce côté-là, c'est plutôt réussi, mais pas aussi bien que Control. Donc,
Parce qu'il y a un changement de genre aussi.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que Alan Wake 2 est un survival.
Ouais.
Et en fait, dans le gameplay qu'il applique et qu'il déploie, en vrai, on est dans cette espèce de Neo Mikami qu'on a eu avec les Resident Evil, avec le remake du 2. Enfin, moi c'est immédiatement le jeu qui m'est venu en tête, c'est Resident Evil 2, le remake, quoi. Les ombres là, bah ouais, il leur faut un chargeur entier pour qu'elles tombent par terre. Et on te distille les balles au compte-gouttes. Et il y a vraiment des moments où moi j'avais plus de balles du tout et je me suis barré.
L'inventaire, je suis désolé, l'inventaire c'est complètement pompé sur Resident Evil dans des proportions, mais c'est un pastiche le truc, littéralement.
Bon, moi, dès qu'on a ce système de jeu, moi ça me plaît bien, mais force est de reconnaître quand même que c'est pas ce qui est le plus réussi dans ce Alan Wake 2, mais c'était déjà, je trouvais que Control c'était pas non plus l'aspect le plus réussi, son gameplay. Je peux tout à fait comprendre que les jumpscares sont un problème, vraiment, oui, ils sont très nombreux. En fait, au bout d'un moment on s'y habitue presque, enfin, moi ils me faisaient plus très peur, en fait tu sais quand tu t'approches, à un moment donné, je fais là il va y en avoir un, il y en a eu un, voilà, vraiment c'est assez automatique. En fait, il y a une logique aussi d'univers que tu sais à quel moment il va y avoir des jumpscares, dans ce jeu là je trouve que par contre il y a un problème de boss notamment qui sont pas réussis, je trouve.
Les combats sont
pas dingues. Par rapport à ceux de Control, c'est un cran au-dessous. Hein.
Même les boss de Control étaient pas dingues.
Oui, mais tu vois, c'est dire le niveau. C'est que ceux de Control étaient intéressants sans plus. Ceux d'Alan Wake 2, je trouve qu'ils sont pas terribles du tout.
Mais ils étaient fun en fait. Ceux de Control, il y avait un minimum de fun parce que Jessie, elle bougeait bien. Puis on lui filait un milliard de pouvoirs. Elle volait, machin, parce qu'elle voulait. Elle balançait des chaises à la gueule des
ennemis. Control est un jeu très dynamique parce que Control est pensé comme un shooter, Control est pensé comme Max Payne. Ouais. Alan Wake, et moi, c'est une comparaison que j'ai beaucoup faite, est pensé vraiment comme un jeu d'action narratif à la Sony. C'est le jeu qui me fait le plus penser à The Last of Us 2 sur le plan de la réalisation depuis The Last of Us 2. Je trouve que c'est probablement le premier jeu qui fasse vraiment, entre guillemets, next-gen, pratiquement. Cette sensation que ouais, tu diriges un personnage qui est très réaliste dans ses mouvements. Tu vois, quand tu cours, quand tu es dans Bright Falls, tu as trois pauvres pâtés de maison, tu mets 3 minutes pour aller d'un bout à l'autre, alors que dans n'importe quel autre jeu, effectivement, où tu as un perso qui est plus dynamique, bah ouais, tu as cette sensation d'être un super héros, d'avoir des super pouvoirs. Là, tu es un perso lambda, vraiment.
Tu peux pas sauter dès que tu as une marche, ça dépend, tu peux pas forcément grimper sur la marche.
C'est Red Dead Redemption 2, hein, littéralement, les mouvements dans Red Dead 2. Hein.
Et du coup, oui, effectivement, assez lourd, etc. Y a aussi autre qualité par rapport à Control, c'est que l'histoire est un peu plus habitable que Control. Elle se repose beaucoup moins sur, alors t'en as toujours, hein, c'est Remedy, sur les documents à foison. Disons qu'à la fin, tu te dis pas en fait, j'ai rien compris, va falloir que j'aille voir 25 pages d'explications sur ce Reddit. T'as quand même beaucoup moins cette sensation là.
Non, mais la narration chez Remedy, de toute façon, c'est quoi ? Il y a plusieurs couches. Il y a une couche, on va dire, de dramaturgie, donc de dramatique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment là ? Pourquoi t'es dans le jeu ? Qu'est-ce que l'action va résoudre comme situation initiale et comme élément perturbateur ? Et en vrai, quand tu réfléchis un peu à Control, ça va, c'est pas si compliqué. Il y a un plot twist à base que oh, c'était mon frère. Enfin, bref, disons qu'il est possible. Possible de condenser ce qui se passe dans Control et d'en tirer un sens, notamment dans ce qui est révélé, dans ce qui s'est passé avant Control, juste avant Control. Dans Alan Wake 2, c'est un peu pareil, et en plus il joue un peu avec cette ambiguïté du hors-champ, en fait. C'est-à-dire que le background de Saga Anderson est central, ouais, dans l'histoire d'Alan Wake et des enjeux d'Alan Wake 2, mais sans jamais nous les montrer jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté très Twin Peaks. Jusqu'au bout, on ne sait pas si tout ça n'est qu'une hallucination géante ou si y a un fond de vérité. Et jusqu'au bout, on ne le saura pas, finalement.
Qu'est-ce qui serait de la vérité, bien sûr.
Qu'est-ce qui est de la vérité de la fiction, ouais. Mais ça, c'est le centre d'Alan Wake. Enfin, c'est les thématiques principales d'Alan Wake. Et du coup, je trouve qu'il y a un vrai génie comme ça d'avoir plusieurs couches de narration. Et puis après, bon, pour tous les archéologues de Wiki qui va y avoir ensuite sur Internet, qui vont chercher le moindre détail, notamment sur les personnages qu'on va retrouver dans différents jeux du Reminiverse, bon, bah, ils se feront plaisir. C'est pas mon cas. Moi, j'étais là pour la vibe, pour, on va dire, la ligne narrative qui est décrite dans Alan Wake, avec un début, un milieu, une fin, des plot twists entre les deux, et puis surtout, voilà, une expérience assez folle. Enfin, ce jeu va vivre dans mon cerveau sans payer de loyer pendant un petit moment, quoi. C'est
joliment dit.
Bah, c'est Living in Your Head, Rent Free, c'est un mème internet que je ne fais que voler. Mais du coup,
ça sonne bien en français.
Ouais, ça sonne pas mal, il faut le tourner. Mais du coup, ouais, et, alors, je tiens à préciser aussi que c'est un jeu fondamentalement kitsch. C'est un jeu
complètement
super kitsch.
Mais c'est voulu, enfin, c'est totalement assumé.
C'est,
hein,
très Alan Wake 1 pour le coup.
Ouais, ouais.
Avec donc Alan Wake 1 qui mélangeait donc cette espèce d'horreur un peu grotesque avec des personnages
hyper clichés.
Des personnages de téléfilm, ouais, c'est
ouais,
ça.
Complètement. C'est un téléfilm de Noël. Ouais. D'ailleurs, ouais, retrouvez le replay de 50 minutes de scène où j'ai à Paris pour parler des téléfilms de Noël. Voilà, petit écart, petit écart.
Et il y a moins ce côté-là avec avec Alan Wake 2, mais là d'un seul coup, on a un kitsch plus Eurovision.
Ah,
qui est donc de bon goût. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le
kitsch de bon
goût.
C'est
quoi ?
C'est à cause du groupe de métal finlandais, c'est ça ?
Bah, déjà, il y a ça, oui. Alors,
parce que eux, qu'est-ce qu'ils sont référencés dans le jeu ? Mais pour le coup, leur rôle est vraiment important.
Super central.
Et c'est super bien fichu.
Ouais. Et au point que, voilà, il y a un passage dans le jeu en particulier, je pense que tout le monde va s'en souvenir jusqu'à.
C'est le nouveau labyrinthe de contrôle.
Oui, c'est le nouveau. Voilà. C'est le labyrinthe du cendrier, exactement. Mais en puissance 1000, quoi. Enfin,
c'est fabuleux.
En venant, je me suis écouté le passage. Enfin, vraiment, c'est trop bien. C'est vraiment super.
C'est techniquement fou.
C'est un spectacle son et lumière. Ouais. C'est un grand moment de jeu vidéo. Vraiment, on dit rien de ce qui se passe, mais on va dire que tout ce qui se passe dans. Oui, parce qu'on n'a pas dit, le jeu se divise en deux. Deux campagnes, la campagne d'Alan Wake et la campagne de l'agent du FBI.
Tu n'es pas obligé de faire dans un ordre précis.
Non.
Tu peux vraiment te dire, je vais faire la campagne de tel perso pendant longtemps et aller à tel moment, je vais revenir sur l'autre.
Et comme Alan Wake, il est dans son monde des cauchemars, là, bah, du coup, tout est possible. Et du coup, il y a des choses incroyables qui se passent. Et du coup, on retrouve un peu cet esprit contrôle de peut-être que les choses sont pas ce qu'elles semblent.
Vous me l'avez hyper bien vendu, mais du coup, j'ai pas fait Alan Wake, j'ai pas fait contrôle. Alors, est-ce que j'ai une chance de m'en sortir si j'attaque Alan Wake 2 directement ?
Il y a une vidéo à voir pour ça. C'est, okay. C'est la vidéo d'IGN qui a dit à Sam Lake, est-ce que tu es capable de nous expliquer Alan Wake et éventuellement Control s'il le faut pendant 5 minutes. Finalement, il le fait pendant 13 et à la fin, il se marre, il dit bon, désolé, ça a pris un peu plus que 5 minutes, mais en vrai, ça il résume bien.
Ça suffit pour se lancer. Alors, et pas trop largué.
Je sais pas si ça suffit véritablement pour comprendre les références que tu auras dans les Alan Wake 2,
Est-ce que j'aurais l'impression de passer à côté du jeu pendant tout le jeu ou pas?
Non, parce que même en tant que
jeu vidéo,
même en tant que jeu sans avoir joué, aux précédents épisodes, en soi, il est sympa à jouer parce que tu rentres dans une ambiance. En fait, comme le disait Kokobé au début, tu joues pas au jeu pour son scénario intrinsèque, mais davantage pour son ambiance. Et donc, en soi, de ce côté-là, c'est réussi. Tu comprendras peut-être pas certains trucs, même beaucoup de choses, mais c'est pas grave.
Je me sentirais pas exclu hors du jeu. J'ai mon autre exemple en tête, une série que t'adore, malheureusement. Halo Infinite, tu n'es pas du tout dans la franchise, tu n'es pas le bienvenu, alors que toit est donc rebooté, tu vois, machin.
On est quand même moins dans.
Un niveau de ref qui est quand même plus tolérable si t'as pas les refs. Okay.
Complètement. Oui, parce que je pense que le fait qu'il y ait autant d'années entre deux épisodes, que. Entre temps, ils l'ont raccroché à Control, etc. Je pense que. Ils ont quand même voulu le rendre le jeu accessible, même si on reste quand même chez Remedy.
Petite vidéo YouTube et on peut
voir même un petit résumé écrit sur la page Wikipédia. Vraiment, ça suffit pas. Faut juste savoir comment commence Alan Wake, comment il se termine.
Okay.
Savoir où sont les personnages à la fin du premier jeu pour savoir ce qu'on reprend là où on en était à peu près. Mais il n'y a pas eu tant de choses que ça qui s'est passé dans Alan Wake 1 finalement quand
on réfléchit. Non, mais c'est ça. En fait, c'est ça qui est drôle. Il s'est passé davantage de choses dans le DLC de Control dédié à Alan Wake que dans le jeu original.
Après, pas si long que ça, Alan Wake en vrai.
Oui, et puis à côté, il y a Microsoft qui est passé dessus, parce qu'on rappelle que c'était une arlésienne comme Alan Wake à la base. C'est sorti en plein mois de mai 2007, dans mes souvenirs, en mode.
C'est sorti le même jour que Red Dead Redemption, surtout.
Ah ouais, j'avais pas souvenir.
C'était 360.
Mais en tout cas, le truc. Effectivement, Microsoft a quand même dû dire bon les gars, en fait là ça suffit, on va mettre un peu des barrières, et voilà. Et d'ailleurs, en parlant de barrières, je vous propose de partir sur un autre jeu et de conclure sur Alan Wake 2, parce que ça fait déjà de longues minutes qu'on a refait le monde au sujet de ce jeu,
mais
que l'on vous conseille effectivement chaudement. Il est disponible sur console et PC via l'Epic Game Store, n'hésitez pas, excellent jeu pour cette fin d'année. Voilà pour ce best-of festival de Manetta 3, j'espère qu'il vous a plu. Rendez-vous donc en septembre pour la saison 3. Salut à tous!